RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. Bonjour à tous, les grandes gueules sont de retour au Salon de l'Agriculture ici avec la région des Hauts-de-France, au stand des Hauts-de-France. Nous sommes en direct du Hall 7, on y est jusqu'à midi, on y sera demain encore et on vous y attend nombreux. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour à tous, bonjour les grandes gueules.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec l'enseignante Barbara Lefebvre. Bonjour ma chère Barbara.
Bonjour les amis.
Nous sommes avec l'éducateur Abel Boyi. Bonjour Abel.
Salut les amis.
Et puis le chef d'entreprise Emmanuel Devilliers. Bonjour Emmanuel.
Et bonjour à tous, on pourrait remercier les vergers de Vaucelles avec ce merveilleux jus de pomme et chanter pour tous les exposants à la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Non, ce n'est pas avec de l'eau de rivière et pas non plus de l'eau de pluie. À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui.
Et là, on est au jus de pomme, effectivement.
Il n'est que 9h03.
Au jus de pomme, t'es sûr? Je suis pas sûr, moi.
Au verger de Vaucelles qui nous a apporté des lentilles vertes bio.
Ben ça y est, on a le petit-déj parce qu'on a les macarons au trogneux, on a la pomme. Bref, on se régale.
Merci à tous. Alors, nos grandes gueules qui sont ici en direct du stand des Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture, qui vont relever des défis.
Oula.
On va avoir un concours d'épluchage de pommes de terre tout à l'heure.
Il paraît qu'Abel, c'est son truc.
Emmanuel Devilliers va aller à la rencontre des moutons du Boulonnais aussi à l'heure. On va parler du secteur de la pêche, un secteur en crise. Alors là, c'est une vraie bataille navale que livrent les pêcheurs des Hauts-de-France face aux pêcheurs anglais, britanniques. C'est vraiment la guerre sur mer, la bataille navale. On en parlera avec eux. Nos sujets de discussion aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, Marine Le Pen refusera de faire campagne avec un bracelet électronique, elle l'a dit hier sur BFM TV. Christian Estrosi, le maire de Nice, propose la dissolution de la France insoumise. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, est donné battu dans un sondage à la municipalité du Havre. Voilà, ça fait des sujets sur lesquels vous allez réagir au 32-16. Mais notre premier sujet de discussion, c'est un drame de la route qui a eu lieu justement dans les Hauts-de-France. C'est terrible, c'est à Libercourt, dans le Pas-de-Calais, cet accident de la route qui a fait 3 morts, dont 2 mineurs. Il y a 2 blessés graves, mais quand on regarde les circonstances de l'accident, on ne peut que se dire que ce drame aurait pu être évité si on n'avait pas eu l'inconscience de gamins de 15 ans.
Un tragique accident qui s'est produit vers 3h du matin dans la nuit de mardi à mercredi. On a donc 2 voitures qui se percutent. Dans l'une, 4 jeunes de 15 ans à bord d'une Audi appartenant aux parents. 2 des jeunes sont décédés, les 2 autres sont dans un état très grave. D'ailleurs, le pronostic vital est engagé pour l'un des jeunes. Dans l'autre voiture, il y a un homme de 39 ans qui partait au boulot, qui est mort sur le coup. Sa compagne doit couché dans quelques semaines. Le jeune conducteur en fait a brûlé un feu rouge. Il roulait, le compteur est resté bloqué à 153 km/h. Donc il roulait à 153 km/h sur une route limitée à 30. La violence du choc, des morceaux de voiture ont été éparpillés sur 150 mètres. Un témoin raconte, on pouvait voir le moteur encastré à l'intérieur du véhicule percuté. Bref, c'est un drame qui implique une fois de plus des mineurs inconscients et ça se termine par ce terrible accident avec la mort d'un homme de 39 ans qui tout simplement partait travailler.
Abel Boyi.
Encore des jeunes qui jouent au con. Donc premièrement, où sont les parents? Voilà, je suis désolé, moi j'ai des enfants et il est hors de question que mes enfants puissent avoir accès à la clé de ma voiture gratuitement. Voilà. Des mineurs au volant d'une voiture.
Ils n'ont sans doute pas demandé l'autorisation.
Oui, certainement, mais tu fais quand même attention quand tu es parent, c'est quand même la première responsabilité. Deuxièmement, l'accident se déroule à 3h du matin, donc ils ont 15 ans, dans une Audi, à plus de 150 km/h, à 3h du matin. Et je le dis encore des jeunes qui jouent au con. Et moi j'en ai marre de toujours entendre que oui, mais il est gentil, oui, mais a priori il y en a qui étaient dans le club de basket de la commune ou autre. Non, au bout d'un moment, c'est combien de délits encore vont se faire, combien de victimes collatérales, parce que ce monsieur Rachid qui a été percuté, il attendait un enfant dans une semaine. Que va-t-on dire à la dame maintenant ? Donc non, je suis désolé, au bout d'un moment, il va falloir statuer sur la justice des mineurs et arrêter de faire de ce sujet une sorte de tabou et enfin condamner les mineurs au prorata de ce qui se passe, même si tu me diras qu'il y en a deux qui sont morts, mais il y en a deux qui sont encore en vie. Il va falloir que des sanctions exemplaires puissent être mises en place afin que ce soit dissuasif pour les prochains qui puissent être tentés de faire la même chose.
Mais dissuasif aussi pour les parents, encore une fois. Alors bien sûr, on va nous expliquer qu'ils ont subtilisé l'audi à 2h du matin, bien sûr. Oui, voilà. Oui, j'ai quelques doutes.
Les parents devaient dormir, ils ont dû prendre la voiture.
Mais non, mais c'est toujours pareil. Alors, il y a des parents, c'est marrant, on leur pique jamais l'audi. Et il y a des parents, c'est toujours eux à qui on pique l'audi. On n'a pas vu qu'il était sorti à 2h du matin. On n'a pas vu qu'il dealait de la drogue. Mmh. On n'a pas vu qu'il roulait à 200 à l'heure. On n'a pas vu qu'il roulait sans permis. On n'a pas vu qu'il fumait du shit. Il y en a, ils voient jamais rien. Et puis après, ça vient nous raconter, comme la mère de Mohamed Amra, il était gentil, mon fils. Donc moi, je suis désolée. Ils ont pris une vie. Ils ont pris un père de famille. Mmh. C'est, la victime, c'est lui. Donc je ne comprends même pas que les parents ne soient pas eux aussi. Je suis désolée, encore une fois, l'autorité parentale, c'est des droits et des devoirs pour les parents. Et il faut maintenant véritablement responsabiliser de façon pénale et civile les parents. Parce que à chaque fois, les gamins, bah, évidemment, c'est la justice des mineurs et on peut le comprendre, on va pas les enfermer pendant 35 ans de prison. Oui. De toute façon, ça va être homicide.
Bon, le conducteur est mort.
Décédé.
Mm-hmm. Et les deux autres derrière sont gravement blessés. Donc en fait, il y a que des victimes.
Oui,
dans
mais
cette
rappelez-vous
histoire,
de celui qui avait fait une roue arrière à Valoris, etc. Bon, bah, lui, il n'était pas multirécidiviste, mais quand même, homicide involontaire, ça suffit tout ça. Et les parents doivent être responsabilisés.
On n'est pas simplement sur une connerie, un terrible. Malheureusement aboutit à
mais encore une fois,
un
je
drame.
Te le dis, c'est toujours les mêmes qui font des conneries. Et il y a des, excuse-moi, il y a les enfants de certains parents qui ne font pas tout le temps des conneries. Alors bien sûr, on aura toujours un auditeur qui nous appellera en nous disant, moi, tous mes enfants, ça a été, puis il y en avait un qui partait en vrille, j'ai rien pu faire. Ok, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Sinon, vous avez en règle générale des parents défaillants, et c'est là-dedans que certains gamins s'engouffrent. Un gamin de 15 ans, il pique pas l'audi des parents si, par ailleurs, il a...
Qui sait qu'il va prendre une torgnole derrière.
S'il prend l'audi à 2h du matin, c'est qu'il sait quand même qu'il y a une forme de permissivité qui a toujours
et
été présente dans cette famille.
Et qu'il avait certainement l'habitude de le faire en plus.
Emmanuel, moi, très modestement,
je souscris à ce qui vient d'être dit, en particulier par Abel, mais j'ajoute un élément au cas particulier de la famille, c'est la défaillance de l'État. Tous ces gardes des Sceaux qui se sont succédés depuis les dernières décennies, au lieu de parader dans des cérémonies en manteau d'hermine ou autre, ils auraient dû régler ce problème dans l'arsenal répressif. C'est une défaillance criminelle, parce que quand on est garde des Sceaux, c'est une mission de service et de responsabilité. Et ne pas prendre les mesures d'évidence appropriées pour protéger la société...
C'est-à-dire quoi? C'est grave. Renforcer la justice des mineurs.
Avoir un vrai arsenal répressif, effectivement, en arrêtant avec cette justice des mineurs qui remonte à l'après-guerre et qui est devenue totalement dépassée. Et comme l'ont dit Barbara et Abel, mettre en place des mesures qui deviennent véritablement dissuasives. Ils ont une responsabilité, ces gens-là.
Tu crois que quand t'as 15 ans, alors on ne connaît pas encore véritablement le profil hein, de.
Mais bien sûr que je crois qu'à 15 ans, on est conscient des risques.
Oui, mais à 15 ans, tu fais des conneries que tu ferais peut-être
non,
pas à 20
non,
ans.
Non, parce que si on sait qu'un copain, un cousin, un prédécesseur dans une autre région se retrouve en prison, et pourquoi pas, c'est une image à casser des cailloux, on réfléchit quand même, on évite peut-être 80% des cas.
Ce qui est intéressant, c'est que les trois mineurs, hein, donc de 15 ans, il y en a deux qui ne voulaient pas monter à bord de la voiture, a priori. Mm-hmm. Et donc, il y en avait un qui avait l'air d'être un peu le leader, un peu le meneur. Alors, tu as raison, déjà, ils étaient debout à 3h du matin. Qu'est-ce qu'il foutait debout à 3h du matin? Qu'est-ce qui lui prend, lui, de dire à ses copains, allez, venez, on va faire de la voiture? En plus, d'après ce que disent des témoins qui connaissaient un peu la famille, ils disaient, ouais, venez, on va faire de la vitesse. Mm-hmm. Parce que tu dis une Audi, mais c'était un modèle d'Audi qui est une véritable voiture surpuissante.
Sans cendre. 150, tu vois, sur une route.
Donc, ça veut dire, venez, on va faire de la vitesse. Donc, il avait sûrement déjà un peu l'habitude de prendre la voiture. Il a voulu faire le malin, si tu veux, en pleine nuit, en disant, vous allez voir, on va sûrement en pleine nuit, il n'y a personne, on peut traverser la commune à 150 km/h. Donc on a un gamin de 15 ans, qui se comporte déjà comme un meneur, comme un leader, et qui entraîne les deux autres qui ne veulent pas y aller, quoi.
Et qui n'a pas peur d'enfreindre la loi quand tu roules, même en tant qu'adulte. Bon, ok, moi je fais des excès de vitesse, ça m'arrive, mais là où c'est limité à 30 km/h, tu vas pas aller à plus de 150. C'est-à-dire qu'il y a une inconscience totale. Et moi, je dis toujours que ce qui prime, c'est le ressenti de la victime. Et la première victime, il y a une veuve ce matin. D'accord, qui doit accoucher dans une semaine.
Il avait déjà deux enfants, hein, et là c'était.
Oui, voilà. Donc il y a deux enfants, qui perdent leur père, et il y a une veuve qui accouche dans une semaine, et donc il y a un enfant qui ne connaîtra jamais son père. Je ne sais pas si on s'imagine la déflagration psychologique que c'est, parce que à cet enfant, qu'est-ce qu'on va lui expliquer quand il va grandir ? Ton père est mort parce que des connards ont joué, ils ont défoncé sa voiture et il est mort dedans. C'est dramatique en réalité. Donc je suis désolé, il faut légiférer. Je pense que à 14-15 ans, on peut avoir un minimum de conscience éveillée pour avoir peur de la sanction. Moi, je dis toujours 16, 17, 18 ans, c'est un peu tard. Je pense que ces jeunes-là, s'ils savaient qu'ils allaient prendre une torgnole de leurs parents, et je le dis désolé pour les apôtres de l'éducation Montessori, et une torgnole de la justice, ils ne l'auraient pas fait. Parce que quand on est capable de prendre une voiture surpuissante comme ça et de jouer au milieu de la nuit, c'est qu'il y a un grave problème à tous les niveaux.
Dans la justice des mineurs, la notion de discernement, elle est fondamentale. C'est ce qui permet aussi aux juges de pouvoir à adapter les sanctions, mesures éducatives, sanctions pénales, etc. Là, le discernement, il existe à 15 ans. Je suis navrée, à 15 ans, le discernement est là. Et il y a autre chose qui permet...
S'il y avait du discernement, il ne roulerait peut-être pas 150
qu'à 15 ans, non, mais à 15 ans, qui plus est, à 15 ans, un garçon... Conduire. Non mais à 15 ans, un garçon, c'est des conduites à risque.
Ben voilà.
C'est pas. Non mais je veux dire, c'est banal.
Oui, c'est banal.
Tout garçon de 15 ans peut avoir des formes de conduite à risque. Voilà. Seulement, avant, il y a un truc qui s'appelle l'éducation parentale. Ce qui fait que la conduite à risque d'un gamin qui a été éduqué et civilisé, ça va être fumer, ça va être boire un petit verre en soirée. Ça, c'est la conduite à risque de gamin éduqué.
C'est un âge où t'es bien transgressé.
La conduite à risque de gens qui n'ont pas été éduqués et qui n'ont pas été civilisés, parce que pour moi, être éduqué, c'est être civilisé, ça donne ça. Ça donne, je prends une voiture, j'oblige quasiment mes copains à monter en leur disant t'es pas cap, et je tue quelqu'un. Donc encore une fois, l'éducation des parents, elle est ici en cause.
Oui. Alors moi, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire au début de ton propos, parce que tu évoques le discernement à l'appréciation du juge. Mais c'est fini tout ça. On arrête tout ça. On part des faits et on réprime les faits.
Bien sûr, au prorata de la gravité du fait.
Ça veut dire qu'évoquer le terrain du discernement des juges avec l'appréciation de textes adéquats, ça, on est déjà complètement bloqué dans les filets d'une justice de l'excuse.
Alors là,
donc ça veut dire qu'il faut lever l'excuse de minorité.
Il faut tout lever. On part des faits et on réprime les faits très sévèrement.
Mais mon cher Emmanuel, je suis d'accord avec toi, et c'est au-delà des mineurs, parce que quand on pense à Théo, jeune vendeur d'une boutique Bouygues Télécom de 21 ans, qui s'est fait poignarder à mort par un homme dont on vient maintenant nous expliquer, oui, mais vous comprenez, il était paranoïaque alors qu'il avait prémédité son geste. Là, l'irresponsabilité pénale aussi, ça mérite d'être remis sur le tapis.
On a Cyril qui veut intervenir dans les GG, il est dans les Hautes-Alpes, il est technicien de maintenance. Bonjour Cyril. Bienvenue dans les GG, bienvenue dans les Grandes Gueules pour notre discussion, Cyril. Qu'est-ce que vous pensez de ce drame, Cyril? Dites-moi, si on peut mettre Cyril en direct, s'il vous plaît, dans les GG, dans les Grandes Gueules. Allez-y, Cyril, je vous écoute.
Oui, bonjour l'équipe. Ce qu'il y a au bout d'un moment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une voiture, c'est quelque chose de très, très, très dangereux si c'est mal utilisé. Du moment où on prend le véhicule en infraction, c'est-à-dire alcool, excès de vitesse, ou en ne respectant pas le code de la route, comme les gamins à l'heure actuelle, c'est une arme de destruction massive pour moi. Le gamin, il a passé le BSR, il connaissait le code de la route un minimum, il savait ce qu'il faisait, c'était pas bien. Dans tous les cas, même si les parents derrière sont pas derrière là, il avait des connaissances, il savait ce qu'il faisait, c'était pas bien. Pour moi, c'est il a pris une arme, il a joué avec la vie des autres.
Il a pas d'autre vie puisqu'il en est mort.
Et il a tué. Mais Cyril, là, le conducteur est mort. Les deux passagers derrière sont grièvement blessés. La voiture percutée en face, le conducteur est mort aussi. Il laisse une famille. Mais
la vraie victime, c'est elle,
bien sûr. Mais est-ce que du coup, il faut se retourner vers les parents du conducteur ou pas? Parce que finalement, l'action judiciaire là, elle est éteinte comme le conducteur est mort. Vous voyez, Cyril, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est complet. Logique. Moi, j'ai quatre enfants. L'aîné a 18 ans, il a le permis. Le dernier, il a 6 ans, donc j'en ai deux autres entre deux. Ils savent très bien tout ce qu'ils peuvent risquer à faire des bêtises qu'ils n'ont pas le droit de faire. D'une part, de mon côté, mais aussi aux yeux de la loi.
Oui, mais c'est, imaginons, à mon avis, on verra ce que dit l'enquête, mais à mon avis, ils ont pris les clés de la voiture et le véhicule à l'insu des parents qui devaient dormir à ce moment-là. D'ailleurs, je crois qu'il dormait chez un copain, enfin, il n'était pas chez lui. Donc, en fait, les parents, ils sont peut-être aussi victimes de ça. C'est-à-dire qu'ils viennent de perdre leur môme et ils vont découvrir que alors qu'il dormait, il a pris les la voiture. Est-ce qu'on peut vraiment incriminer les parents? C'est ça, je pose la question.
Les
avoir.
Parents sont responsables. Je sais pas, au bout d'un moment, moi, il faut trouver des excuses à tout le monde en permanence.
Non, je trouve pas des excuses, mais c'est pas la même chose de parents défaillants et on a prouvé qu'ils n'étaient pas là, qu'ils n'éduquaient pas, qu'ils ne protégeaient pas leur enfant. Là, c'est peut-être des parents qui étaient très bien et que voilà, le môme a voulu faire une connerie, a pris la bagnole, a voulu épater ses copains et puis il en est mort.
Oui, mais les parents restent
moi, je sais que mes enfants, ils savent ce que c'est que la vitesse en voiture. Ils ont déjà vu des accidents. J'aurais déjà expliqué tout ce qu'ils pouvaient risquer avec une voiture. Oui. Ah oui, mais 15 ans, c'est énorme. À 15 ans,
on veut transgresser.
Pour éclairer Olivier, il faut savoir que si ses enfants avaient un patrimoine personnel suite à donation ou autre, à leur décès, l'argent remonte aux parents. Donc la responsabilité de cette faute, comme le dit notre auditeur, elle remonte aux parents.
Merci Cyril d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si on a pu établir s'il y avait stupéfiant ou pas stupéfiant, s'il y avait protoxyde d'azote ou pas.
Peut-être.
Protoxyde d'azote, je ne sais pas.
Pour l'instant,
vers les articles, on n'a pas toutes les informations. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, avec Emmanuel Devilliers, Barbara Lefebvre et avec Abel Boyi, on va commencer à regarder le scrutin des municipales, puisque vous savez que le 15 mars, c'est le premier tour des élections municipales. On va regarder ce qui se passe du côté du Havre. Le Havre, le maire, c'est Édouard Philippe, c'est l'ancien Premier ministre. Et là, il est donné battu par le candidat communiste. Ce qui, quand même, poserait problème, puisque Édouard Philippe, il se voit bien aller à l'Élysée. Alors, est-ce que c'est déjà cuit pour Édouard Philippe? L'horizon s'éloigne pour Édouard Philippe. 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules. Et si vous êtes au Salon de l'agriculture, rejoignez-nous ici, au stand des Hauts-de-France, au Hall 7.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules installées ici au stand des Hauts-de-France, au Salon de l'agriculture. Nous y sommes aujourd'hui, nous y serons demain encore. Nous sommes là avec Barbara Lefebvre, avec Abel Bouilly et avec Emmanuel Devilliers. Rejoignez-nous ici au stand des Hauts-de-France pour discuter, échanger, bien évidemment. On vous attend avec impatience. Nous sommes là jusqu'à midi. On va parler des élections municipales et de ce qui se passe du côté du Havre. Oui, on va s'intéresser au Havre parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de villes comme ça avec des prétendants à l'élection présidentielle. Et là, c'est Édouard Philippe dont il s'agit.
Ça sent le roussi pour ou le sapin pour Édouard Philippe parce qu'il a lui-même conditionné sa candidature à la présidentielle à sa réélection au Havre. Et donc, selon cette étude, alors c'est un sondage bien entendu, mais on est à moins de 3 semaines du premier tour, donc il est intéressant. Selon cette étude OpinionWay pour Hexagone, publiée hier, le maire sortant du Havre arriverait donc en tête du premier tour, donc 37% des intentions de vote, mais talonné par son adversaire communiste, qui est Jean-Paul Lecoq, qui est un député. Le candidat RN arriverait en troisième position, 18%, il pourrait donc se maintenir et donc on partirait sur une triangulaire et dans ce cas-là, eh bien l'ancien Premier ministre est donné perdant 40% au profit du fameux communiste Jean-Paul Lecoq qui l'emporterait à 42%. Donc c'est très serré, on est dans les marges d'erreur, rien n'est joué, mais c'est sûr que c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour Édouard Philippe. Et la journée hier a été assez pourrie pour Édouard Philippe, je dois le dire, parce que le matin, son poulain à Paris, Bournazel, a dit en cas de duel entre Dati à Paris et Grégoire, je ne choisis pas. Il était donc obligé de le recadrer. Il apprend que son autre poulain à Nice, Christian Estrosi, qui est également Horizon, pourrait être battu par Exciotti. Je me dis quand même, effectivement, l'horizon s'accomplit.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Emmanuel?
Moi, je dis, par un jeu de mots naturel avec le nom de son parti Horizon, l'horizon commence à se boucher. Et s'il perd... L'ancien Premier ministre, il a deux choses à faire. C'est très simple, il faut avoir l'esprit concret. La première chose, il proclame, mesdames, messieurs, chers Français, l'horizon est bouché. Et la deuxième chose, il va s'amarrer sur le quai de l'oubli au Havre, tel le paquebot France.
Le cul tourné vers Saint-Nazaire.
Pays breton où je suis né.
Attendez, j'attendais la suite.
Donc non, vous êtes déjà en train d'enterrer Édouard Philippe.
Non, mais le problème d'Édouard Philippe, c'est qu'il est dans une phase de jupéisation. Il y a 2 ans, il était au top. C'était monsieur GQ Magazine.
C'était le grand favori.
Exactement. Et le problème, c'est que je pense que les Français vont lui faire payer le fait d'avoir été un représentant de la Macronie quelque part, parce qu'Emmanuel Macron cristallise une telle défiance qui va, ça va lui porter préjudice. Et deuxièmement, il communique trop à travers le prisme d'une élection présidentielle. Donc, le citoyen du Havre se dit, mais moi, je vais élire quelqu'un, en gros, qui se barre dans un an. À quoi ça sert? Donc, autant s'en débarrasser. Et il doit faire très attention, parce que ça pourrait être la grosse surprise de 2026.
Le candidat UDR-RN ou RN-UDR, c'est Franck Keller. Et en fait, du premier au deuxième tour, il ne bougerait pas, d'ailleurs.
Oui, mais ça suffit.
Bien sûr. Lui, il ne bougerait pas, il resterait à 18%.
Le Rassemblement National, par la voix de Marine Le Pen, a bien annoncé hier qu'il ne se retirerait nulle part. C'est-à-dire qu'il garderait les triangulaires, encore heureux. Hein, ça fait quand même des décennies que le Rassemblement National se prend des triangulaires dans la tête. Maintenant que le RN sort en tête, il peut se permettre de leur faire payer ce qu'eux-mêmes ont subi. Ce qui est intéressant pour M. Philippe, c'est que la Seine-Maritime, l'ensemble des 10 circonscriptions de la Seine-Maritime aux élections 2024, tous les députés sortants, il n'y avait pas un seul RN. Pas un seul. Premier tour dès 2024, quasiment toute la Seine-Maritime était RN. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Philippe? Ouh là là, je me désiste, j'invite à ce qu'on se désiste au deuxième tour pour faire élire des LFI. Le même Édouard Philippe qui maintenant, bien sûr, se bouche le nez sur LFI. Donc, maintenant, c'est tout ce qu'ils méritent, tous ces gens-là, parce qu'il y a quand même eu des élus, malgré tout, hein, ils ont réussi quand même le Rassemblement National, malgré le barrage, à faire élire 2 députés dans la 10e et la 6e circonscription de la Seine-Maritime. Alors qu'au premier tour, ils avaient ils avaient au moins 5 ou 6 circonscriptions de la Seine-Maritime qui leur étaient promises, on va dire. Barrage républicain, blablabla, blablabla. Donc maintenant, ce n'est que le juste retour des choses. Quand on magouille, quand on cherche à se faire ami-ami avec des gens qui demain, comme Monsieur Lecoq, vont être votre adversaire, eh bien c'est tout à fait logique que celui à qui vous avez tendu la perche pour pouvoir battre un autre adversaire, eh bien c'est celui qui prenne votre place. Au revoir Édouard Philippe.
Bah, il n'est pas encore battu.
Bah, il va pouvoir aller dans la cuisine puisque c'est lui qui mettait nos grands-parents dans la cuisine, qui interdisait aux gens d'aller aux enterrements pendant le Covid, qui nous a confinés, surconfinés, qui ensuite nous a imposé le pass sanitaire. Alors excusez-moi, moi je lui dis adios amigos.
Alors en attendant, il n'est pas complètement parti, mais c'est intéressant parce que Édouard Philippe essaie de se détacher d'Emmanuel Macron. Il est critique. Je vous rappelle quand même qu'il avait demandé la démission, la démission prématurée d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, a été reproché en Macronie. Donc malgré cela,
et la lâcheté en plus.
Malgré cela, il est
la déloyauté.
Il semble être entraîné un peu par l'impopularité d'Emmanuel Macron.
Mais comme quoi. En politique, on n'est jamais assez manœuvrier parce que fort du constat qu'on vient de dresser, finalement, il aurait dû prendre une décision un peu lâche, celle de ne pas se représenter au Havre pour préserver sa candidature
présidentielle. Peut-être. Ce qui est intéressant, c'est qu'on posait la question en début de semaine de savoir si ce scrutin, c'est un scrutin national ou un scrutin local.
Et là, il y aura des conséquences.
Sur les grandes villes, c'est national.
Voilà. Et là, c'est là où Abel touche peut-être le vrai point, c'est-à-dire que on dit toujours que le maire, c'est celui qui est à portée de baffe. C'est-à-dire, c'est celui qui change ton quotidien, ton coin de la rue, qui s'occupe de tes ordures, de la voirie, de l'école maternelle, puisqu'il a le bâti. Et effectivement, donc peut-être que les Havrais se disent, mais Édouard Philippe, il a été aux affaires, il a été premier ministre. Et puis là, est-ce qu'on élit un maire pour avoir finalement le premier adjoint? Est-ce que c'est intéressant d'avoir un maire qui va se lancer tout de suite dans l'élection?
Est-ce qu'on va voter pour un maire qui ne sera pas là parce qu'il sera en campagne?
Dans l'élection présidentielle, dans la campagne, ou est-ce qu'on vote vraiment pour quelqu'un qui sera là?
Du coup, c'est peut-être l'ancien monde.
Et c'est
parce que c'était comme ça avant. C'est-à-dire, je me présentais, mais c'était uniquement le tremplin pour l'étape supplémentaire. Peut-être que les Français ne veulent plus ça.
On change d'époque, effectivement.
Non, il a commis une erreur politique, ou plutôt politicienne. Oui. C'est celle, effectivement, de se représenter. Il aurait dû alléguer, même avec hypocrisie. Voilà. Maintenant, je me consacre au projet pour la France. Les Havrais m'excuseront. Pas me représenter.
Mais l'autre erreur. C'est pas fait, l'élection. Encore.
Mais l'autre erreur qu'il fait en amont, souvenez-vous, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. Et lui, il se pointe à 20h30. j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. On dit, mais qu'est-ce que tu fais, Fifi? Complètement hors sujet, complètement à contre-temps. Il a pris un risque de communication qui est passé inaperçu, in fine. Donc moi, je peux comprendre que les Havrais se disent qu'ils en ont marre et qu'ils ne voient pas d'horizon, justement, avec Édouard Philippe.
Il y a quand même une énigme. Moi, j'ai toujours trouvé assez énigmatique sa popularité. Parce qu'elle j'aurais rebondir ce que se disait Barbara, qui parlait du Covid, parce qu'effectivement, Édouard Philippe, ce sont les années Covid. Mais ce sont aussi les années Gilets jaunes. C'est les premières difficultés, quand même, d'Emmanuel Macron. Et j'ai jamais bien compris cette popularité. Alors peut-être qu'elle était un peu factice et qu'elle est en train de s'écrouler. Parce que, alors, si je me suis dit, en fait, on aime bien Édouard Philippe parce
qu'il nous a. La popularité du silence.
Non, parce qu'il nous avait déconfiné du premier confinement. Donc il était parti, souvenez-vous, il quitte Matignon après le déconfinement, donc il part sur une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que quand on regarde le bilan d'Édouard Philippe, c'est une réforme des retraites qui achoppe, qui ne va pas jusqu'au bout, la première. Ce sont les gilets jaunes, les fameux 80 km/h.
Exactement.
Alors après, il y a le Covid, la gestion du Covid. Là, je pense qu'il a gagné des points parce qu'il était quand même beaucoup plus clair, même si Barbara est contre, mais il était quand même plus clair qu'Emmanuel Macron sur les mesures. Il avait l'air d'être plus solide qu'Emmanuel Macron, qui changeait de ton, qui ne savait plus trop où aller. Et puis, il y a cette popularité gagnée quand il quitte Matignon. Et depuis qu'il a quitté Matignon...
Non.
Oui. Pardon, c'est quoi, Edouard?
Évidemment, il ne l'ouvre pas. On ne l'a pas vu pendant pratiquement un an. Il s'est retiré au Havre, etc. Donc,
ah oui, c'est sa ville, il est maire. Donc, on ne va pas lui reprocher maintenant d'être au Havre.
Les Français aiment le silence. Rappelez-vous, à chaque fois que quelqu'un... À chaque fois qu'un homme politique se tait et on ne le voit plus, c'est là qu'il est populaire.
Donc, c'est une popularité un peu factice.
Mais bien sûr que c'est une popularité factice, parce que moi j'aurais bien aimé tous les gens qui donnaient des avis favorables à Édouard Philippe. Moi j'aurais aimé qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui dans le programme d'Édouard Philippe les séduit, puisqu'encore une fois tu l'as dit, moi je suis désolée, il a quand même trahi sa famille politique pour aller rejoindre Emmanuel Macron, comme tant d'autres à LR, etc. Bon bref, l'UMP...
Ça lui a permis de devenir Premier ministre.
Oui, Premier ministre, mais encore une fois, pour faire quoi? Les 80 km/h, une réforme des retraites qui s'est plantée, et en plus c'est lui qui, quand le Covid s'est arrêté, a insisté pour des réformes paramétriques, alors que Emmanuel Macron, lui, voulait une réforme systémique, il voulait la retraite à point.
Il voulait l'âge pivot à 64
Philippe
ans.
Philippe ne voulait pas la retraite à point, il voulait à l'ancienne du paramétrique. Alors vas-y, et je te joue avec l'âge et les réformes paramétriques à la Juppé, c'est Juppé bis. Exactement. Non mais attendez, on n'a pas élu Juppé.
Il y a quelque chose.
On a été suffisamment fort pour ça. C'est pas pour élire son clone et en moins bien.
Quelque chose de plus fondamental, si vraiment on veut l'habiller façon salon d'agriculture, bien diversement, eh bien, monsieur Édouard Philippe n'a jamais travaillé de sa vie. Il a fait travailler 2 ans dans un organisme nucléaire placé, un organisme public. C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé.
Oui, Valérie veut en discuter avec nous, notre amie Valérie, du côté des Alpes-Maritimes à Peymenade. Bonjour Valérie, bienvenue dans les GG. Merci d'être avec nous en direct, Valérie. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Edouard Philippe battu au Havre? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Dans tous les cas, c'est un sondage du moment, attention.
Oui, bien sûr, on ne peut pas préjuger. Mais écoutez, moi, c'est ce que je mettais dans mon message. Mais qu'est-ce que je serais contente s'il était battu? Mais qu'est-ce que je serais contente? Bon, déjà, à la base, je pense quand même que le Havre a toujours été une ville plutôt de gauche. Les gens votaient plutôt à gauche. Donc là, ce serait à l'origine, mais moi, tous ces politiques qui ont quitté leur famille pour rejoindre Macron, comme vous l'avez dit, à un moment, au niveau des sondages, il était populaire. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Ce monsieur, on a eu les gilets jaunes, on a eu les 80 km/h, on a eu effectivement la réforme des retraites qu'il n'a pas mise en place. Enfin, et qu'est-ce qu'il a fait de politique? Voilà, moi, c'est la question que je me suis posée si jamais c'était mon maire. Bon, après, pour sa ville, je ne sais pas. Mais je pense que les gens là, et vous l'avez parfaitement dit tout à l'heure, on dit que ce sont les élections municipales. Moi, je pense que pour certaines personnes, non. Ça va être déjà un avant-goût d'élection nationale. Et ça, il le paye d'avoir montré effectivement ses ambitions pour les présidentielles.
Et s'il est battu au Havre, ça sera quand même le premier coup de théâtre de cette campagne présidentielle. Le deuxième, ça sera peut-être l'empêchement de Marine Le Pen. Donc c'est amusant parce que, souvenez-vous, il y a encore quelques mois dans tous les sondages, on disait ça sera Le Pen, Édouard Philippe, le second tour. Et puis peut-être qu'effectivement cet été, ça sera ni Édouard Philippe, ni Marine Le Pen. Donc soyons prudents aussi sur les pronostics de la présidentielle.
La différence, c'est qu'Édouard Philippe, il aura été mis hors jeu par le vote démocratique, par le peuple souverain, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen, oui, qui elle est mise hors jeu par les juges.
Le problème de l'élection au Havre, c'est que Édouard Philippe n'a jamais endossé véritablement le beau costume de son prédécesseur Antoine Ruffnac, qui avait repris le Havre à la gauche. Et il a même fini par se fâcher avec Antoine Ruffnac, qui avait été son parrain, ce qui n'est jamais bon signe.
Et puis la réalité, c'est quand tu vois Édouard Philippe, bon, j'imagine le citoyen lambda, mais en quoi il se différencie d'Emmanuel Macron? Qui peut répondre à cette question?
Il essaie de se différencier.
Oui, mais il passe pour un traître parce qu'il était bien content qu'Emmanuel Macron lui a proposé le poste de Premier ministre. Ah bah, et là, il crache dans la soupe. Donc, c'est un cynisme politique qui n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, Édouard Philippe, en plus d'être un Juppé bis, c'est un Juppé avec la veste d'Emmanuel Macron.
Ça montre aussi que les gens ont peut-être aussi envie de renverser la table et qu'il y a envie de déjà
au moins.
On l'a vu d'ailleurs en 2024 où les macronistes ont beaucoup perdu aux législatives. Mm-hmm. Et là, peut-être, c'est la deuxième lame.
Au moins, Juppé avait été loyal vis-à-vis de Chirac, il avait même payé et chèrement payé sa fidélité à Chirac. Édouard Philippe, alors, c'est vraiment la nouvelle génération de politique, marcher sur les autres pour essayer de monter et finalement ils vont pas bien haut. Hein.
Pour terminer le tableau, il a aussi un conseiller que personnellement j'aime pas du tout, Olivier Truchot, qui est très cultivé en matière politique, va nous donner le nom de ce conseiller.
C'est Boyer.
Voilà, j'aime pas du tout ce monsieur
qui est député européen.
Il me paraît franc comme un âne qui recule.
Dis donc, qu'est-ce qu'il a pris cher, Édouard Philippe? Je sais pas s'il va passer au salon.
C'est son ami, son ami de toujours, avec qui notamment il écrit des livres. Donc c'est vraiment une amitié, c'est pas juste.
Voilà. C'est son ami de toujours et son fidèle.
Je remercie Valérie d'avoir été avec nous en direct dans les GG, dans les grandes gueules. Je vous dis à bientôt, Valérie, pour continuer nos discussions. Et puisqu'on parle d'Edouard Philippe et du parti Horizon, je rappelle que lundi nous serons en direct de Nice. Pourquoi est-ce que j'insiste sur Nice?
D'abord parce que
c'est ma ville, mais parce qu'effectivement Christian Estrosi, l'une des figures d'Horizon, il est vice-président du parti et il sera face à un UDR RN aussi, c'est Éric Ciotti. Et on dit que le scrutin s'annonce très très serré et c'est au-delà d'une bataille, puisque Christian Estrosi et Éric Ciotti étaient amis, ils ont fait carrière politique ensemble, jusqu'à maintenant se déchirer et devenir adversaires. Et ils débattront lundi soir en direct sur BFM.
Mais quand un homme politique dit « c'est mon ami », il faut bien écouter la phrase suivante.
Oui, mais alors Édouard Philippe aussi, il y a un problème d'autorité. Ce qui se passe à Paris, où son poulain Bournazel finalement ne suit pas les consignes, il est obligé de le recadrer en direct et d'ailleurs il le recadre et dans la foulée Bournazel dit non je maintiens ce que j'ai dit.
Donc allez, dans un instant,
il y a quand même un problème aussi d'autorité peut-être sur ces points.
Il n'y a plus de leader,
avec les GG, avec les grandes gueules, avec Abel Boyi, Barbara Lefebvre et Emmanuel De Villiers, les grandes gueules en direct du salon de l'agriculture au stand des Hauts-de-France, et ce sera le on s'en fout pas. Restez avec nous.
RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, bah oui, nous sommes en direct du stand des Hauts-de-France, ici au salon de l'agriculture. Donc pendant la pause pub, on papote des sujets dont on débat dans les GG.
On consomme aussi.
Voilà, et puis on papote aussi des bons produits des amis des Hauts-de-France. Et puis alors là, c'est de l'andouillette de Cambrai à la fraise de veau de la maison Saint-Jacques à Neuville-Saint-Rémy. Et je peux vous dire qu'avec Emmanuel, la l'andouillette, nous, à 9h30 du matin, on est clients, aussi bizarre que ça puisse pas. Et l'ami Abel aussi.
Abel, il est dingue d'andouillette.
Là, je suis comme un enfant joyeux, je me régale.
Alors que Barbara a l'air plutôt dégoûtée.
Barbara préfère ne faire aucun commentaire.
Faut reconnaître que l'andouillette, c'est
une certaine odeur.
En temps normal, déjà à midi, c'est particulier. À 9h le matin, je puisse concevoir que tu peux avoir un certain effet un peu repoussoir. Mais qu'est-ce que c'est bon, hein, pas vrai, Emmanuel?
On profite pour saluer.
On ne regrette jamais de sauter du plongeon dans la piscine.
J'en profite pour saluer Barbotine et le refuge Groingroin, je rappelle. Vous pouvez faire vos dons et parrainer des cochons qui ont été sauvés et qui vivent donc dans ce sanctuaire vegan qui s'appelle le refuge Groingroin. Amitié.
Félicitations à la maison Saint-Jacques, donc à Neuville-Saint-Rémy, pour leur andouillette de Cambrai à la fraise de veau. Quelle heure est-il? Il est 10h moins le quart, on y va pour l'on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Ouais, l'andouillette, ça s'en fout. Il vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension. L'ami Emmanuel De Villiers m'a liquidé l'andouillette.
Attends, regarde Abel Boyi. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours, ouais. Abel.
Par contre, ils ont laissé les feuilles d'endive. Hein.
Ah, moi, j'adore ça, les endives aussi. Alors, on y va. Anaïs Sainz, bonjour.
Bonjour, les GG. Bonjour à tous. Rachida Dati quitte le gouvernement à 15 jours du premier tour. Ça y est, la candidate à la mairie de Paris a remis sa démission hier après 2 ans au ministère de la Culture pour mener, je cite, le combat de sa vie. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Emmanuel?
On s'en fout pas.
Un sondage IFOP publié dimanche créditait Rachida Dati de 30% des voix au coude à coude avec Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, qui lui est crédité de 30% des suffrages. Barbara, pourquoi tu t'en fous pas?
Mais moi je m'en fous pas parce que je regrette quand même qu'en deux ans Rachida Dati n'ait pas laissé une grande action, une grande réforme au ministère de la Culture. Elle avait quand même un projet, c'était concernant l'audiovisuel public. Ouais. Et on lui a tiré le tapis sous les pieds.
Pas de majorité.
Pas de majorité, et puis pas tellement soutenu non plus, on va dire, par l'exécutif. Donc, à titre personnel, je pense que Rachida Dati a fait une grave erreur en rejoignant Emmanuel Macron. Ça pourrait lui être fatal à Paris.
Ah oui?
Moi, je pense. Hein. Je pense que de toute façon, Emmanuel Macron, c'est toujours le mauvais cheval. Mais enfin bon, ça c'est mon avis.
Mais les derniers macronistes, ce sont peut-être parisiens.
Oui, bah oui, oui, c'est dire. Heureusement, j'habite plus Paris. Donc, ce que j'aurais aimé, encore une fois, c'était que l'ambition, même si elle était modeste à mes yeux, de Rachida Dati pour démanteler un petit peu le service public de l'audiovisuel payé avec mes impôts et que je regarde si peu, soit appliquée. Il ne l'est pas, c'est bien dommage.
Rachida Dati part au moment aussi où il y a un remplacement à la tête de la gestion du musée du Louvre, donc peut-être qu'elle voulait s'assurer de gérer ce dossier avant de partir. Tu parlais des macronistes qui sont parisiens, ils sont chez Bournazel, et je pense qu'elle doit prendre ces 3 semaines pour négocier avec l'enfant Bournazel qui se voyait déjà en haut de l'affiche pour avoir une alliance au deuxième tour, parce que ça risque de lui porter préjudice, parce que comme tu le dis très bien, Barbara, je pense que beaucoup d'électeurs, et pas qu'à Paris, vont faire payer toutes les personnes qui ont travaillé avec Emmanuel Macron. En tout cas, la tentation sera bien grande.
Emmanuel?
Moi, je pense que Rachida Dati est une candidate un peu à cloche-pied, déséquilibrée par ses affaires antérieures judiciaires qui ne sont pas réglées. Mais néanmoins, comme il faut toujours choisir la politique du moindre mal, la politique du pire étant la pire des politiques, j'espère qu'elle reprendra la mairie de Paris à cette arca de gauchistes aventuriers qui détruisent, qui abaissent la capitale par tout un tas de travaux, par tout un tas d'embauches de feignants et un surendettement qui mène la capitale à la catastrophe.
Quel type de campagne elle fait, Rachida Dati? Parce qu'elle part tard finalement là, en démissionnant du ministère de l'Agriculture.
Elle a déjà commencé, de la culture. Non, elle est sur le terrain.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle fait une campagne sur sa notoriété. Mais est-ce que ça fait une vraie campagne politique pour autant, pour essayer de gagner la ville de Paris?
Contrairement à d'autres, c'est pas une question. Parachutée, puisqu'elle est maire du 7e depuis des années.
Oui, bien sûr.
Elle était déjà en campagne. On a même commenté toutes ses vidéos qu'elle a mis en place. D'ailleurs, c'est peut-être la première à s'être lancée vraiment en campagne. Ouais. Après, elle voulait rester ministre. Il faut expliquer les coulisses. Elle voulait rester ministre, et c'est Le Cornu qui a fait pression pour qu'elle quitte le gouvernement. Emmanuel Macron savait pas trop quoi faire parce que bon. Elle aurait pu faire les deux. Elle aurait pu être ministre et en campagne. Par exemple, Emmanuel Grégoire, son adversaire, il est bien député. Donc, on peut être député et en campagne. Je trouve que ces règles, en fait, sont un peu à géométrie variable. Alors, soit tout le monde démissionne pour faire campagne, soit on peut continuer à exercer sa fonction.
Le deuxième tour à Paris va être absolument passionnant. Mmh. Parce que si à Paris se maintiennent Grégoire, Dati, Bournazel, Chikirou et Knafo, ça va quand même être absolument passionnant à regarder.
Il faut 10% pour pouvoir.
Il faut 10%. Ouais. Bon, je pense que Mme Chikirou, ses sorties complètement délirantes, mais risque de mobiliser les dingos bobos du 18e.
Détrompe-toi.
Ils vont adorer.
Si Knafo arrive à faire 10%, ce qui n'est pas encore certain, moi je pense qu'elle se désistera. Elle l'a déjà plus ou moins dit. Puisqu'elle a laissé entendre qu'elle ne laisserait pas la gauche emporter.
En tout cas, le dernier sondage IFOP donne Rachida Dati victorieuse, en tout cas.
D'une courte tête
en cas de duel avec face à Emmanuel Grégoire.
Paris, il va y avoir deux bulletins, c'est-à-dire le bulletin pour
le maire d'arrondissement et la mairie générale.
Donc c'est un changement de scrutin là cette fois-ci.
On enchaîne. 3 ans après avoir causé un grave accident sur une petite route de Seine-et-Marne, Pierre Palmade a purgé sa peine. Ça y est, son bracelet électronique lui sera retiré demain. Nouveau chapitre qui s'accompagne aussi d'une pièce qu'il a coécrite et qui sera jouée l'année prochaine dans un théâtre parisien.
Une pièce ancienne, mais qui revient.
Exactement.
C'est pas une pièce qu'il vient d'écrire.
Oui, qu'il a coécrite à l'époque. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
On s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Emmanuel?
On peut tout dire et son contraire, je m'en fous.
Ah, Barbara?
Non, je m'en fous pas. Je pense que bracelet électronique pour le L'acte et le délit qui a été commis, pour moi, c'est trop peu. Je pense qu'il aurait dû faire beaucoup plus de prison, beaucoup plus de prison ferme, encore une fois. Alors après, qu'il reprenne son activité professionnelle, qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est comme ça, je veux dire, là, il a purgé sa peine, il a le droit de revenir dans son métier.
Tu le vois remonter sur scène ?
Ah non, je le vois pas remonter. Non, mais enfin, vous savez, l'indécence n'a plus de limite.
Non, mais c'est au-delà de l'indécence, mais ça va être compliqué.
Bertrand Cantat est bien remonté sur scène.
Oui, mais alors, ça n'a pas bien réussi.
Ah ben non, mais il est quand même remonté sur scène. Il a quand même son public. Encore une fois, moi je vous dis, croyez pas que les excès et les horreurs que certains puissent commettre les éloignent de leur public. Au contraire, ça leur attire un certain public. Donc moi, ça me laisse perplexe, mais qu'est-ce que vous voulez ? Tous les coups sont dans la nature. Par contre, moi je pense que M. Palmade aurait dû faire beaucoup plus de prison ferme et que la justice a été bonne mère, comme elle sait le faire parfois, alors que dans d'autres cas, elle est quand même beaucoup plus dure. Voilà. Il y a tellement de voilà, fort avec les faibles et faibles avec les forts, c'est toujours pareil. Enfin bref, pour moi, il y a une injustice dans cette affaire et M. Palmade ne devrait même pas se voir retirer son bracelet électronique.
Après. Il aurait dû prendre plus cher et il y a toujours cette confirmation qu'il y a deux France, c'est-à-dire qu'il a des réseaux, il fait partie des puissants, donc il peut revenir sur le devant de la scène s'il le veut. Mais si Pierre Palmade...
Ça ne sera pas simple.
Hein. Non, mais peut-être que ça ne sera pas simple.
Pourquoi tu veux dire qu'il a des réseaux
et non, c'est pas pour ça.
Mais il fait partie des puissants, il fait partie des...
C'est pour ça que la justice l'a...
Non, mais moi, je ne parle pas de ça, je suis désolé. Ça aurait été monsieur tout le monde pour retrouver un emploi, pour se réinsérer dans la société.
Là, c'est une ancienne pièce qui est jouée.
Oui, mais il a quand même la possibilité... Oui, mais il a la possibilité de relancer la machine quand même dans la perspective de relancer une pièce. C'est son métier, mais Pierre Palmade fait partie des puissants. Pierre Palmade aurait été, je ne sais pas, je vais prendre un métier au pif, je ne sais pas, menuisier. Je pense qu'il aurait été blacklisté, que ça aurait été beaucoup plus dur de retrouver une activité professionnelle.
Mais non, mais... c'est compliqué parce que quand un artiste est accusé mais pas encore condamné, il est exclu. Regardez tous ces acteurs qu'on ne voit plus tourner, ils sont pas condamnés, mais comme ils ont été accusés d'agression sexuelle, on les met dehors. Une fois qu'ils ont purgé leur peine, alors on peut estimer que la peine n'était pas suffisante, mais il a purgé sa peine puisque sa peine sera purgée vendredi. Bah, il faut aussi qu'il reste dans les oubliettes. Enfin, c'est compliqué. Donc dans tous les cas,
il a pas le droit de deuxième chance.
Il a le droit de travailler, mais c'est pas le problème. Il faut quand même rappeler
que c'est son travail.
Il y a une soirée, il y a de la drogue, il y a une femme qui a perdu son bébé et dont la justice a estimé qu'au niveau du nombre de semaines où elle était enceinte, on considère pas ça comme un meurtre.
Mais les faits sont horribles.
Il y a quand même des faits qui sont terribles. Et Pierre Palmade aurait été monsieur ou madame tout le monde. Il n'aurait pas eu la possibilité. En plus, Pierre Palmade a choisi Messi.
Mais la justice n'a pas épargné parce que c'était Palmade.
Moi, je parle pas de la justice. La question, c'est le retour par rapport à sa pièce de théâtre.
Donc,
c'est lui-même qui choisit quand est-ce qu'il revient.
Non, on ne devrait pas jouer sa pièce de théâtre, sa vieille pièce de théâtre.
Bah déjà, on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il sera sur scène ? Est-ce qu'il sera metteur en scène ? Mais je pense que déjà...
C'est une pièce qui a été écrite il y a plusieurs années déjà et qui revient dans un théâtre. Ça va lui générer de nouveau des droits d'auteur et autres.
Sur le principe, c'est scandaleux parce que je suis désolé.
Donc il
n'a
plus le droit de travailler.
Il fait partie des puissants. Il a des réseaux et il peut choisir de revenir sur le devant de la scène au moment où il le veut. Et les victimes elles-mêmes, elles restent avec leur
paix éternelle. Le discours anti-élite, on peut pas non plus le sortir à tout.
Mais c'est la réalité. Ouais, mais Pierre Palmade, il fait partie des élites.
Je suis pas d'accord avec toi. Quand on est dans le niveau d'emmerdement qui est le sien et qu'il a suscité, on n'a plus d'amis.
Mais est-ce que quand tu es dans le niveau d'emmerdement dans lequel il est, si tu es monsieur ou madame tout le monde, tu as la possibilité de te repositionner
pour lancer
parce que tu es dans l'anonymat, à certains égards,
c'est un pourri, mais il va pas s'excuser d'avoir du talent.
Mais dans l'anonymat, on sépare
le drogué de l'artiste
avec les GG
au passage.
Avec les grandes gueules, on va recevoir Bruno Margolet. Il est pêcheur dans le Pas-de-Calais, il est vice-président du comité national des pêches et c'est intéressant de discuter avec lui de la bataille navale qui se passe aujourd'hui au niveau de la pêche avec les Anglais. C'est quasiment la guerre est déclarée avec les Anglais. C'est la bataille navale dont on va parler dans les GG, dans les Grandes Gueules. Il est 10h05, les Grandes Gueules en direct de la région des Hauts-de-France ici au Salon de l'Agriculture.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules.